Les séminaires du Collège de France.
Je vais prendre quelques minutes pour aussi raconter, peut-être il y en a parmi vous ou ceux qui sont dans les salles à côté, qui sont là pour la première fois ou qui sont venus pour écouter Sophie. Alors je vais juste mettre rapidement un contexte. C'est dans le cadre donc d'une série de leçons qui avait pour titre les verbes de l'écriture qui se sont déroulés au cours des deux derniers mois, et après chaque leçon il y a un séminaire. Ce séminaire, j'ai pensé toujours les séminaires comme un pas de côté. En tout cas une manière peut-être justement de fonctionner par association, mais c'était surtout pour moi l'occasion d'avoir la chance d'inviter des gens que j'admire et que j'avais envie de rencontrer, et puis donc de partager cette rencontre. Alors ceux qui ont suivi ces séminaires, ceux qui les ont suivis, vous avez peut-être remarqué que il n'y a pas eu d'écrivains qui ont été invités. C'est évidemment bien réfléchi de ma part. L'idée était pour moi d'inviter surtout des personnes avec qui il était possible où l'écriture pouvait dialoguer avec autre chose qu'elle-même. Les artistes, ceux qui relèvent de l'artiste, ceux qui s'en approchent le plus, c'était évidemment Louis Langrais et Bénédicte Trémolière, qui sont des artistes qui sont dans la... peut-être pas tant dans la création d'une œuvre que dans l'interprétation d'une œuvre. Donc, de toutes les personnes que j'ai invitées, il n'y avait pas d'artistes qui mettent au monde une œuvre, qui créent une œuvre. Et je voulais évidemment terminer avec une artiste ou un artiste qui crée une œuvre, qui porte un monde, qui est possédé, qui est hanté, enfin tout, voilà, qui a tous les verbes de l'écriture. Les hasards, la vie, enfin je vais pas le raconter parce que ça serait trop long. Lorsque ça m'est apparu vraiment comme une évidence, une fulgurance, de demander à Sophie Kahl de venir faire ce dernier séminaire autour du verbe finir, comment est-ce qu'on finit, du verbe mourir, comment est-ce qu'on termine une œuvre, c'était ça la question, comment est-ce qu'on finit, comment on sait que c'est terminé, comment on fait un point final ou bien le dernier coup de pinceau, c'était ça un tout petit peu la question. C'est que évidemment je connaissais le travail de Sophie depuis plusieurs années comme spectateur, comme auditeur, enfin je sais pas, comme visiteur, comme lecteur aussi, parce que Sophie est à la fois une photographe, une réalisatrice, une plasticienne et une écrivaine, et qui en tout cas qui, par rapport à la notion du regard, de ce que c'est que de voir, travaille aussi avec un outil qui est le sien, qui est l'intimité, c'est son laboratoire, c'est ce qu'elle a à portée de main, avec lequel elle fait des œuvres qui percent notre propre intimité. Or, une des récurrences qu'il y avait dans son travail, c'est justement la mort. Et alors, ça m'a semblé véritablement une... Alors, quand je l'ai contactée, je me disais, elle n'aura pas le temps, elle n'aura pas envie, ou elle... Et elle m'a dit, oui, mais tout de suite. Alors, je lui laisserai évidemment la possibilité de vous raconter pourquoi elle a dit oui tout de suite comme ça. Et donc, c'est vraiment une chance immense pour moi de... simplement déjà de faire un séminaire, mais que ce soit de cette manière que la leçon, le cours se termine. Je voudrais simplement vous dire, parce que la manière avec laquelle ça va se passer, c'est que Sophie va prendre la parole, va vous présenter quelque chose pendant à peu près une demi-heure. Il faut juste que vous sachiez une chose, et là je m'adresse à ceux qui vont regarder, qui seraient amenés à regarder la retransmission. Je ne parle pas de ceux qui sont aujourd'hui ici au Collège de France, mais ceux qui vont regarder la retransmission, il y aura une vidéo qui ne sera pas accessible à ceux qui regarderont plus tard ce séminaire. Cette vidéo montre, c'est la vidéo qui montre la mort de la mère de Sophie. Évidemment, Sophie n'a pas nécessairement envie que cette vidéo se retrouve sur Internet ou dans et c'est très important qu'elle soit présente dans le lieu même au moment où cette vidéo soit présentée.
Qu'elle soit filmée dans la salle.
Comment ?
Ni qu'elle soit filmée dans la salle.
Voilà, c'est ça, et qu'elle ne soit surtout pas filmée dans la salle. Donc vraiment, en fait, ben évidemment, c'est pas une comédienne qui joue. Vous allez enfin c'est la réelle mort. Donc elle n'est pas faite ni pour être filmée ni pour être enregistrée. Tout simplement d'être, on va dire, communié, d'être avec, de se poser devant avec. Voilà. Bien. Cela étant dit. Sophie, je te laisse la parole et une fois que tu auras terminé de nous montrer ce que tu as envie de nous montrer, on poursuivra la conversation. Merci.
Je m'offre ton verre d'eau. Tu voudras un verre d'eau. Merci. Quand Wajdi Mouawad a donné sa leçon inaugurale au Collège de France, il a qualifié sa présence d'imposture. Que devrais-je dire ? Je suis allée 6 mois à l'université de Nanterre et j'ai obtenu, d'après mes souvenirs, une maîtrise ou au minimum une licence. Si je ne me souviens pas, c'est que je n'y étais pas. Car Jean Baudrillard m'avait conseillé de voyager plutôt que de traîner à la fac. Et durant plusieurs années, il a ajouté mon nom sur les copies de ses meilleurs étudiants. J'ai ainsi appris au Mexique que j'étais diplômée. Quoi qu'il en soit, Wajdi Mouawad plus le Collège de France, ça faisait beaucoup. Je raconte souvent cette anecdote. Je désirais rencontrer un homme dont l'intelligence me paralysait. Il a accepté de déjeuner avec moi. Ma joie fut gâchée par la crainte de ne pas être à la hauteur. Afin de me tranquilliser, je lui ai demandé de quoi nous allions parler. Il a fixé le thème. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? J'ai révisé toute la semaine, accumulé une multitude de réponses. Le jour venu, je lui ai aussitôt retourné sa question et il a répondu « l'odeur du café ». Alors, quand Wajdi Mouawad m'a téléphoné pour me demander si j'accepterais de participer à son cycle de conférences au Collège de France, la même crainte m'a assaillie. Mais il a précisé, le sujet sera canicule du verbe mourir, mettre en terre sa propre parole, reconnaître le point final, quand sait-on que c'est fini ? Dans sa courte phrase, il y avait un mettre en terre, un mourir, un final et un fini. J'ai donc dit oui. J'ai toujours été attirée par les dernières fois. Un homme qui s'en va, une mère qui meurt, un tableau qui disparaît, un dernier regard. J'ai été la dernière cliente, le 14 avril 1988, de la brasserie La Coupole, quand elle a perdu son âme. Les serveurs qui quittaient l'établissement m'avaient laissé emporter mon assiette, mon verre, ma serviette et m'avaient offert leur nœud de cravate ou un morceau de chemise. Je suis repartie avec la dernière note de 2155 francs pour 12 couverts. J'ai été la dernière cliente de la librairie La Une avant sa fermeture. J'ai fait l'inventaire du dernier mot prononcé par des mourants. La veuve de Jacques Mérine m'a raconté qu'il avait dit « fripouille ». C'était le nom de son chien. J'ai tenté de photographier le dernier regard de taureau avant leur mise à mort dans l'arène. J'ai traîné dans les salles d'attente de l'hôpital Curie dans le but d'approcher les visiteurs et leur demander s'ils me laisseraient filmer les derniers instants de leurs proches, sans oser. J'ai cherché des enfants dont la naissance avait provoqué le décès de leur mère. J'ai cherché des gens qui avaient vécu quelques heures avant d'être informés de la mort d'un proche pour décrire ces dernières minutes insouciantes alors que leur vie venait de basculer. J'ai rangé la vaisselle et il était mort. J'ai pris une douche et il était mort. J'ai reçu une lettre de lui et il était mort. Pour un projet intitulé « La dernière image », j'ai rencontré des aveugles qui avaient subitement perdu la vue et je leur ai demandé de me décrire ce qu'ils avaient vu pour la dernière fois. Un homme raconte. « 19h10, 9 juin 2008, j'ai 39 ans et 9 jours. » Deux femmes se jettent dans mon taxi. En route, elles crient « plus vite, plus vite !» Je klaxonne. Cela exaspère le conducteur d'une Mégane 2 gris métal. On s'insulte. On descend de voiture. L'inconnu mesure environ 1m75 et doit peser plus de 100 kilos. Il me donne un coup de poing, reprend le volant. Ma tête tourne, mais je fais de même. Plus loin, son automobile à l'arrêt bloque le passage. Je note qu'elle est immatriculée VE 2106. Je la surplombe car la route est en pente. Je mets pied à terre. L'homme sort calmement du véhicule. Je vois d'abord son pied gauche, puis sa main gauche qui tient un revolver. Il se tourne. Il s'avance vers moi, sans se presser. Il est calme, déterminé. Je ne peux pas vraiment distinguer les traits de son visage tant il est envahi par la graisse. Aucune expression. On dirait qu'on vient de le sortir du congélateur. Les quatre premiers boutons de sa chemise sont ouverts. Il porte des jeans. Il a une barbe de 10 jours, des cheveux châtains. On se regarde dans les yeux. Les siens sont marrons ou noirs. Je n'y distingue ni haine, ni rage, ni joie. Pas un mot n'est échangé. Il saisit ma tête, la coince contre sa poitrine avec son bras et me tire une balle sous l'œil gauche qui ressort au-dessus de l'œil droit. Depuis, j'ai oublié le visage de ma femme, celui de mes enfants. Tout s'est effacé, mais je vois encore clairement un homme sortir d'une voiture, un revolver dans la main gauche. J'ai perdu mon procès, l'homme est un mafioso, il a menacé les passagères de ma voiture. Elles ont refusé de témoigner. Quant à moi, je ne peux plus l'identifier. Il est possible qu'un jour cette image disparaisse comme les autres. En attendant, c'est la dernière et c'est la seule. Elle ne sera jamais remplacée. Il ne restera que du noir. J'ai commencé un projet sur la disparition et rencontré des parents de disparus. Ceux de Cédric Valois, 1m80, mince, cheveux blonds foncés, yeux bleus, cicatrices sous le menton, disparu à l'âge de 21 ans, le 11 septembre 1997. J'ai tenté de décrire sa présence absente. Une coiffeuse m'a vue à Rosny-sous-Bois, une opticienne à Montreuil, une passante Gare de l'Est. On m'a vue à Marseille et à Beauvais le même jour. À 15 reprises, j'ai été vue Gare de Lyon. Une voyante m'a vue dans le 93. On m'a vue au Châtelet, début 98, un samedi matin. Je me promène. Ma mère a peur de me croiser et de ne pas me reconnaître. J'ai quitté la maison sans papier, sans argent, sans clé, sans rien. Alors elle me voit à Paris faire les marchés, vendre des légumes, vivre dans la marginalité. En rêve, elle a de longues conversations avec moi. Elle me raconte qu'elle s'ennuie de partout. Elle me demande « Tu t'es couvert ?» Je ne réponds pas. Elle persiste « Comment te rattraper ?» Je crie « Trouve-moi !» Elle réplique « Je te cherche !» Elle mène en apparence une existence normale, mais dès qu'on téléphone, dès qu'on sonne, elle pense que c'est pour moi et elle veille à toujours être prête, avec assez d'essence dans le réservoir de sa voiture. Sur un carnet, elle consigne à mon intention les événements importants, la naissance de mon neveu, les 10 ans de ma nièce, et depuis le 11 septembre 1997 à 17h07, elle inscrit quotidiennement le nombre de jours passés sans moi. Ça lui fait du bien et du mal. À ses yeux, j'ai toujours 21 ans, l'âge de ma disparition. Tous les jours, elle dit bonjour et au revoir à ma photo posée sur la table du salon. Et le 13 février, elle lui souhaite bon anniversaire et dépose dans ma chambre une enveloppe qui contient de l'argent. Mais elle redoute la fête des mères. Son mécanisme de survie, c'est de me parler, de me faire des cadeaux et voyager. Des États-Unis, elle m'a rapporté un jean 501, de Thaïlande, un poignard, de Los Angeles, une casquette. Elle s'échappe, mais je suis toujours dans les bagages. Dans ma chambre, tout est intact, rien n'a bougé. Livres, vêtements, la casquette que j'adorais et qu'elle n'a jamais lavée pour garder mon odeur. Je voulais du lino imitation parquet, elle en a posé. Elle a acheté l'armoire que j'avais choisie avant mon départ. Elle repeint régulièrement pour que je me sente bien quand je rentrerai. Elle hésite à mettre mon couvert à table. Elle ne le fait pas. Aux disparus qui réapparaissent, elle demande « Comment peut-on partir sans se retourner ?» Puis j'ai pensé photographier l'absence. Commencer par Ciudad Juárez, baptisée « la ville qui tue les femmes », où, la veille de la visite du pape, les maires avaient peint des croix noires sur fond rose que les autorités se sont empressées d'effacer à la peinture grise. Photographier ces immenses taches qui montraient ce qu'elles cachaient. Je me suis intéressée au prix de la douleur. L'avocat Emmanuel Pierra a rassemblé à mon intention un dossier intitulé « Échelle des prix de la vie ». Un enfant mineur recevait 100 000 francs pour la perte de son père ou de sa mère. Somme majorée de 50% pour un mineur déjà orphelin. un majeur marié encaissait 50 000 francs. Pour un marin philippin perdu dans un naufrage, 30 000. Pour une étudiante polonaise tuée dans le crash du Concorde, 900 000. Mais pour une victime allemande, 7 millions d'euros. Et pour un passager américain sur le vol d'Égyptair, 28 millions. Était-il préférable que votre mari s'écrase dans un avion d'American Airlines, d'Iberia ou d'Air France ? Dans quelle région votre jambe gagnait-elle davantage d'argent ? Valait-il mieux la perdre dans les Vosges ou à Paris ? Le prix de la douleur intégrait des notions sophistiquées comme les disgrâces statiques ou dynamiques et la souffrance avant la mort. La famille était d'autant mieux indemnisée que la victime avait eu le temps de se voir mourir. À combien la minute de terreur ? Puis je me suis penchée sur les viagers. Dans une émission d'enquête, j'ai appris que le dernier investissement à la mode aux États-Unis était la mort. Une entreprise proposait à des seniors malades de racheter leurs assurances vie et récupérer les contrats contre une somme d'argent et le paiement des primes. En contrepartie, elle percevrait le capital au moment du décès de l'assuré. Ça avait le mérite de ne pas tourner autour du pot. Ils écrivent « Le risque de remède miracle existe, mais nous avons des gens âgés avec une grande variété de maladies parmi lesquelles vous pouvez choisir pour diversifier votre portefeuille. On a du diabète, des maladies cardiaques et du cancer. Le travail des conseillers consistait à bien choisir les malades en les identifiant via des achats de médicaments sur Internet, le pari étant que ces retraités meurent plus tôt que prévu. Sur l'écran s'affichait alors le message que les investisseurs recevaient. Nous avons le plaisir de vous informer que la police numéro 72-004-90 a expiré plus d'un an avant l'échéance pronostiquée. C'était alléchant. J'ai voulu enquêter sur un pont en Écosse d'où se sont jetés pour se suicider près de 300 chiens. Pour un projet intitulé « Série noire », j'ai demandé « Que faites-vous de vos morts ?» Dans un carnet d'adresses électronique, vous effacez un ami lointain, mais vous n'effacez pas votre mère ? Que ressentez-vous quand vous cochez la case « Supprimer le contact » ? Wajdi avait dit « canicule du verbe mourir ». J'ai pensé à ma grand-tante Valentine qui s'était fixé un but, devenir centenaire. À l'âge de 96 ans, elle en a eu assez. À l'agonie, peu avant ses 100 ans, elle revint à la vie pour demander « combien de jours reste-t-il ? » Il restait 6 jours. Elle a murmuré « je tiendrai, je tiendrai ». Elle était née le 4 février 1888. Elle est morte le 4 février 1988. Pour son faire-part de décès, elle avait choisi ce verset de la Bible. Elle a fait ce qu'elle a pu. Wajdi avait parlé de mise en terre. Fabio l'a embrassée. Camille lui a murmuré à l'oreille sa chanson « Chivoise ». Florence l'a caressée. Anne l'a endormi. Il est mort. Maurice a creusé un trou dans le jardin. J'ai installé Souris dans un petit cercueil en bois blanc qui servait de modèle aux représentants de commerce avant l'usage de la photographie. Trop petit. Ses pattes de derrière dépassaient. Yves l'a enterré. Serena a planté des jonquilles autour de sa tombe. J'ai reçu un message sur mon téléphone. « Sophie, je suis désolée pour ton chat. » Peux-tu dire à Camille de rapporter des légumes, notamment poireaux et navets, si elle en trouve ? Ce fut le tour de mon père. Sur le dernier portrait que j'ai fait de lui, au-dessus de son visage, il était écrit « Silence ». Tous les soirs, en quittant sa chambre d'hôpital, je recueillais le mot qui serait peut-être le dernier que j'entendrais de sa bouche. Ailleurs, homosexuel, argent, des lèvres et sans le son, j'en peux plus. Qui est là, verre de vin, cyprès. Cette semaine-là, le lundi, il a dit « foutu ». Mardi, fille, c'est ma fille. une phrase que je n'entendrai plus. Mercredi, d'un mouvement des lèvres et des yeux, il a sollicité un baiser. Mon père, qui jamais ne m'embrassait, voulait un baiser. Son dernier mot pourrait être ce geste insolite. Jeudi, il a dit « toilette », pas terrible. Il serait en vie demain, c'était certain. Vendredi, tableau. On va changer l'accrochage des tableaux. Un beau mot de la fin, un mot risqué. J'hésitais entre le désir de ce mot impeccable et celui du mauvais mot, celui qui ne peut pas être le dernier et qui me donne l'assurance de retrouver mon père demain. Samedi, il a dit « mourir ». Dimanche, il a dit « matin ». Il est mort le lundi à 6h50. La nuit suivante, encore à moitié endormie, je me suis subitement dirigée vers le jardin, mais j'ai omis d'ouvrir la verrière et j'ai pris sa mort en pleine figure. Mon père, qui planifiait tout, m'avait enjoint de ne pas verser de larmes à ses funérailles. Je me suis réveillée avec un œil au beurre noir. Il avait la forme d'une larme. Je serai la prochaine. Alors j'ai traîné dans les cimetières et j'ai suivi les enterrements d'inconnus pour voir ce dont je ne voulais pas pour moi. Puis, dans le cimetière de la chapelle de Burtulet, dans le cimetière des Rois à Genève, dans le cimetière des Rois à Genève, dans le cimetière de Greenwood à Brooklyn, sur le domaine de Château Lacoste au puits Saint-Tréparade, j'ai installé des pierres tombales. Une fente creusée dans le marbre permettait de recueillir les secrets manuscrits des promeneurs. J'ai suggéré à une compagnie suisse qui souhaitait que je réalise un projet dans ses avions de tapisser les toilettes avec mes multiples testaments. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Après lecture d'un recueil de nécrologie rédigé par Adran Danat pour diverses publications, je lui ai demandé d'écrire la mienne. Je ne serai pas la première à mourir avant de mourir. Il a accepté. La nécro parlait de moi au passé. Je n'étais plus potentiellement morte. Une chose de commander sa nécro, une autre de la publier. Ça manquait soudainement de légèreté. Je me suis souvenue que mon ami Jean Lafont avait fait ériger son mausolée et l'avait inauguré avec une fête de fausses funérailles. Peu après, il fut victime d'un grave malaise, comme si la tombe réclamait le corps. Alors, pour ne pas trop me faire remarquer par la mort, on ne sait jamais, j'ai préféré recouvrir de papillons communément appelés demi-deuil tous les verbes au passé. Je suis allée ensuite au salon de la mort, tester des cercueils. Comment je fais ? Non. Comment je fais ? Il est là, mon ami. J'appuie sur quoi ? Et le son ?
Pourquoi tu fais ça ?
Je peux retourner, voilà.
On peut fermer la partie. Voilà.
Pourquoi tu fais ça ?
On va fermer, oui. On est pas mal dedans.
Comment on est pas mal ? On est très bien, madame.
On est pas mal du tout dedans.
Vous y êtes pour un moment, hein, alors. Enfin, complètement, allez, on essaye.
Sophie, non. Oui, d'accord.
Vous avez les clés ?
Oui.
C'est l'adopter, mais c'est ça,
je crois. Je vais sortir quand même, si ça vous embête pas.
Non, mais c'est...
Je suis pas superstitieuse, mais...
Allez.
Alors là, je vais essayer de...
Non. Bon. Je m'y retrouverai. Comment j'arrête le film, là, au milieu, avant d'aller au prochain film ? Comment je fais un arrêt sur...
Pourquoi ?
Non, ça m'amène à la prochaine. Il y a un film après celui-là.
Oui, c'est bon. Après, il faut juste lancer l'autre.
Non, il est avant ça. Il est à la fin, il est juste après ça.
non, il est après ça.
Non, il n'est pas après ça. Il est... Il est... Il est, il est deux minutes après celui-là, sur le même truc. Vous voyez ?
Oui, on l'a mis après.
Non, non, on ne l'a pas mis après. On l'a mis là.
Ah oui, d'accord. Oui, mais il faut oublier de le voir entier.
Oui, comment j'arrête là, pour, avant la suite ?
Non, vous êtes obligé de le laisser défiler.
Ah. Bon, ben, on peut... Et là, j'arrête ça comment ?
Celui-là, on ne peut pas l'arrêter pour avoir, avant d'aller...
Oui, mais là, on ne peut pas faire un arrêt sur écran, là ?
Non. Non, non, pour la lancer.
C'est pas bien votre truc. Mais comment je fais alors? Je peux enlever le son pendant que ça...
Oui, oui, il n'y a pas de son là.
Oui, mais il va falloir que ça s'arrête. Bon, on verra. Mais où vivre ma mort? En 92, mon père est devenu propriétaire d'une sépulture au cimetière du Montparnasse, où nous devions séjourner ensemble éternellement. Nous avons mis du temps à choisir l'emplacement, la pierre tombale. Puis nous avons pris l'habitude de la visiter afin de nous familiariser avec le voisinage. Notre fosse pouvait contenir 3 corps. Il restait une place. Oui, mais ça, c'est complètement con, ça. Bon, on se débrouillera après. Il restait une place. Ma mère, divorcée de mon père depuis 45 ans, rêvait d'aller à Montparnasse, mais elle n'avait pas les moyens de s'offrir une demeure à 40 000 francs du mètre carré. Craignant de finir en banlieue, à Bagneux, dans le caveau familial, elle a posé sa candidature. Hors de question pour mon père. Puis il s'est remarié, je n'étais plus l'unique Madame Kahl. Un jour, au détour d'une conversation, j'appris qu'il réservait la place vacante pour sa femme. Dans la famille Kahl, le père, la fille, la belle-mère. J'ai décidé de déménager. 2 Madame Kahl, c'était une de trop. Il fallait m'établir ailleurs. J'aurais aimé rester dans le quartier, passer ma mort à Montparnasse. Mais pour ce type d'opération immobilière, il faut désormais d'abord mourir. Difficile dans ces conditions d'ébaucher des projets d'aménagement. Alors j'ai fait l'acquisition d'une concession dans le cimetière de Bolinas, en Californie. Durant la transaction, parce que je demeure en France et qu'il y a une sérieuse probabilité pour que j'y décède, je me suis inquiétée de l'acheminement de mes restes. Le responsable du cimetière m'a immédiatement rassurée. Le corps, par colis postal, les cendres, par FedEx. Ce détail ainsi balayé, je suis devenue propriétaire du lot 74 de la section T à 8 949 km de mes parents. Et là, eh ben, ça va être compliqué. Il va falloir revoir ça. Et le son. Le son.
Du coup, vous voulez le son de ça ou le son de l'autre?
Ben, tout, puisque c'est, l'autre va arriver. Ce...
Oh non, non. Oui, d'accord.
Vous avez les clés?
Oui.
Vous le, on va pas aller.
Pas écrasé.
Oh non, pas du tout.
Ouais. Bon, je crois
essayez, que c'est l'adopter. Mais c'est ça,
je vais sortir quand même, si ça vous embête pas.
Non, mais c'est...
Je suis pas superstitieuse, mais... Allez.
Alors là, je vais essayer de...
This is a new part you are selling for new graves.
They've all been sold.
There is no left?
Not in this
none
section,
left.
In this section.
Zero?
One. There's one.
Can I buy it?
Sure.
How much is it?
$2,500.
$2,500, yeah.
That's a good deal.
Yeah, I buy it.
Yeah.
Where is it?
It is such a good deal.
Where is it?
Because
where is it?
Okay.
We can sell grave sites
only to people who have a significant relationship to Bolinas.
That's it.
Now, and what is a significant relationship? I decide.
Ah!
You're in.
I'm in.
In.
I can't believe it. I can't believe it. I'm going to buy my tomb. It's brilliant. I would be like that or like
right,
that?
Right. Well, no. It's 5 feet and it goes up here 10 feet.
And there is somebody between me and
here. Yes. This is right here.
Is she a poet?
So
who is there? Who is there? What's her name?
She's a poet.
Yeah, I don't know. She's a friend of many poets.
And who is there?
Who is here? I don't know. I have to look at the map.
Yeah. So this is this is.
So it's right here.
Just by the stone.
It's right here. And here is Phil Frank.
Phil Frank is a young
so, so this is, so doesn't, this that's all? This doesn't look very professional.
I don't have a stamp or
you don't have a stamp? No. You'll get a very elaborate.
How
does it work with the body? If my body has to be sent here, that's okay. It's allowed.
FedEx.
FedEx it? My body or my ashes?
Whichever.
I would UPS the body, but I would FedEx the ashes.
Right.
You would UPS the body, but FedEx it. You already got FedEx body here?
We have FedEx delivery here.
What do you mean?
At the cemetery.
Huh?
Yeah. Now, they will. One of the problems is the cemetery has no address. I'm going to remedy that.
So if I want to FedEx the ashes, where do I FedEx them?
To David. You can FedEx them to David.
To David? No, but if David is dead before me, I cannot FedEx my ashes to David.
I'm 7 years older than he is.
Yeah.
So if you FedEx them to me, there's little chance.
Yeah, but what do I do? So
I will hold this until you tell me to cash it.
Okay.
Done. For eternity.
T'as fait une bonne affaire, tout ça, non?
Écoute, moi, c'est une bonne affaire, mais
tu te sens bien.
C'est une jolie affaire. C'est joli, non, le coin?
Oui. Ah, c'est magnifique.
Je ne trouverai jamais un bel endroit. C'est dommage que ce soit un petit peu loin de Paris, quoi. Ça ne va pas faciliter la tâche des amis. Je risque d'être un peu seule, voilà.
Mais tu ne veux pas aller à Montparnasse?
Si, je veux aller à Montparnasse. C'est mon rêve d'aller à Montparnasse. C'est Montparnasse qui ne veut pas de moi. Moi, je le veux. C'est Montparnasse qui ne veut pas de moi. Moi, j'aurais acheté à Montparnasse depuis longtemps.
Il n'y a pas de place?
C'était la logique. Il faut que je meure d'abord.
La Victoria, tu en fais peut-être un peu trop, là? Et Jean-Paul, tu peux arrêter de sourire et de rire? Non, mais vous regardez pas vous, vous regardez la tombe.
Mais on pense à toi quand on se regarde. On pense à quand on était là.
Oui, mais je préférerais un peu plus de sérieux. Ne me regarde pas, regarde la tombe.
Mais même morte, tu nous diriges.
Chaque fois que mon imagination vagabonde, chaque fois que je rêve comme ça, c'est mon enterrement que je vois. Toujours. Alors parfois je ressuscite, parfois je vois les gens pleurer, parfois je vois des fêtes. Mais chaque fois que je rêve comme ça, que je me laisse aller, c'est invariablement je reviens à mon enterrement. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je m'imagine morte. Avec des gens qui suivent le cercueil, voilà. Et puis, j'ai toujours été dans les cimetières.
J'ai demandé à Pippo Del Bono de mettre en scène mes funérailles. Seulement, je voulais être au moins vivante pour la répétition générale. Nous devions résoudre un certain nombre de détails. J'étais dans la tombe où j'observais de loin. Je pouvais intervenir ou je devais faire la morte. Les invités simulaient la tristesse. Avaient-ils le droit de dire du mal de moi? On acceptait les ennemis mortels? Par ailleurs, il n'était pas évident d'organiser une cérémonie ou d'écrire les discours sans connaître l'âge du personnage principal. 50 ans, foudroyé dans la fleur de l'âge, ou 90 ans, les ayant tous enterrés. Je ne voulais pas que mon projet tourne à la farce. J'ai ajourné. Là. C'est trop compliqué. Hein. Alors, on... Wajdi avait dit « Quand sait-on que c'est fini ?» Pour l'exposition « À toi de faire ma mignonne » au musée Picasso, j'ai rempli un étage avec celles de mes idées qui piétinent, qui attendent leur heure dans des tiroirs, dans des boîtes. J'ai inventorié les ébauches, les tentatives, les abandons, pour donner vie aux intentions. J'ai achevé l'inachèvement, une façon d'en finir. D'ailleurs, mon dernier ouvrage s'intitule « Finir en beauté ». Peu avant l'inauguration du musée Picasso, un orage a causé des dégâts dans ma réserve et des spores de moisissure se sont infiltrés dans des séries qui devaient la constituer et qui toutes parlaient de la fin. Les aveugles, les tombes, le dernier mot de ma mère, souci. J'ai alors repensé à une idée de Roland Topor d'inhumer un vieux chandail qu'il ne pouvait ni donner ni jeter. Il écrit « J'ai acheté un bout de terrain à Marne-la-Vallée pour enterrer mon vieux pull-over avec des motifs en jacquard. Je n'arrivais pas à le jeter bêtement dans le sac poubelle. Il était tellement troué, mité de partout, taché de peinture à l'huile, que je n'aurais jamais osé le donner à un être humain, même nécessiteux. Pas question non plus d'en faire un chiffon. J'ai choisi la solution de l'enterrement. Dimanche prochain, j'irai enterrer ma vieille paire de godasses achetée à New York. Il y a aussi une théière que j'aimais beaucoup et que je m'obstine à garder malgré le bec et l'anse cassés. Les cryptoportiques d'Arles se prêtaient à une telle cérémonie. L'année précédente, durant les rencontres, l'humidité qui y règne avait insidieusement attaqué les œuvres exposées et la moisissure l'avait emportée. J'ai donc enseveli ici mes photographies afin qu'elles finissent de se décomposer et s'enfoncent dans les soubassements de la ville. Seulement, au fil de l'exposition, j'ai aimé de plus en plus ces images magnifiées par la pourriture. Elles semblaient refuser leur sort. Je les ai entendues, j'ai préféré leur offrir une nouvelle vie. Ça ne finirait pas comme prévu. Finalement, ce n'était pas fini. Seulement, mais c'est avec le décès de ma mère que tout s'enchevêtre. Avec ce no man's land entre la vie et la mort. Dernière fois, point final, mettre en terre, mourir. Et cette question, comment savoir que c'est fini ? Elle voulait voir la mère une dernière fois. Le mardi 31 janvier, nous sommes allés à Cabourg, dernier voyage. Le lendemain, pour partir avec de beaux pieds, dernière pédicurie. Elle a lu Ravel de Jean Echenoz, dernier livre. Un homme qu'elle admirait depuis longtemps est venu à son chevet, dernière rencontre. Elle a organisé la cérémonie des obsèques, sa dernière fête. Dernier préparatif, elle a choisi sa robe de funérailles, bleu marine à motif blanc. Une photographie où elle grimace pour sa pierre tombale. Et comme épitaphe, je m'ennuie déjà. Elle a écrit un dernier poème pour son enterrement. Elle a retenu le cimetière du Montparnasse comme adresse définitive. Elle ne voulait pas mourir. Elle a remarqué que c'était la première fois de sa vie qu'elle n'était pas impatiente. Ses dernières larmes ont coulé. Les jours précédant sa mort, elle répétait sans cesse « C'est bizarre, c'est bête ». Elle a écouté le concerto pour clarinette en La majeur K622 de Mozart, pour la dernière fois. Son dernier souhait, partir avec, en musique. Quand j'ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel elle agonisait, parce que je craignais qu'elle n'expire en mon absence, alors que je voulais être là, entendre son dernier mot, elle s'est exclamée « Enfin !» Dernière volonté, ne vous faites pas de soucis. Soucis, son dernier mot. Le 15 mars 2006, à 15h, dernier sourire. Dernier souffle, quelque part, entre 15h02 et 15h15. Insaisissable. Ma mère avait toujours projeté d'aller un jour au pôle Nord. Elle est morte sans accomplir ce rêve, pour le garder intact, peut-être. Invitée à naviguer dans l'Arctique, j'ai accepté pour elle, pour l'emmener et en tirer ses bijoux et son portrait sur le rivage du glacier du Nord. Pendant la guerre, mon grand-père s'était mis à l'abri dans les montagnes près de Grenoble. De peur que le petit immeuble qu'il possédait en ville fût saisi, il l'a troqué contre une bague sertie d'un diamant. Mauvais calcul. Ma grand-mère ne lui a pas adressé la parole l'année durant, mais elle a gardé le solitaire. Alors j'ai attendu d'approcher la position la plus au nord pour débarquer. Si le temps l'avait interdit, elle, qui partageait ma cabine, m'avait suggéré de jeter le diamant dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau. Une perspective qui aurait réjoui ma mère. Mais ce jeudi 2 octobre 2008, il faisait beau. Je suis descendue sur la grève, j'ai choisi une pierre et j'ai enseveli le portrait, le collier et la bague. Ainsi, ma mère est arrivée dans le Grand Nord. Les changements climatiques l'emmèneront-ils vers la mer pour faire route au pôle ? Se retirera-t-elle dans la vallée vers la calotte glaciaire ? Demeurera-t-elle sur ce rivage comme la trace de l'existence d'un glacier du Nord durant la période holocène ? Dans des milliers d'années peut-être, des glaciologues trouveront la bague et débattront sans fin de l'éclat de ce diamant dans la culture inuite. À moins qu'un batteur de grève ne la découvre et n'aille l'échanger contre une maison à Grenoble. Vous pouvez redémarrer l'enregistrement. Enfin, pour terminer, même si c'est hors sujet, j'ai peut-être aussi dit oui à Wajdi Mouawad pour me rapprocher du théâtre à travers lui. Si je ne compte pas ma prestation à l'âge de 10 ans dans la vie parisienne de Jacques Offenbach, j'ai fait mes débuts sur scène en 1979 comme stripteaseuse dans une baraque foraine sur le boulevard à Pigalle. Je me déshabillais 18 fois par jour et j'occupais tous les rôles, mise en scène, interprétation, choix du costume, choix musical. Le patron annonçait au micro « Sophie, un nu rétro et une plastique irréprochable ». Je prenais ça très au sérieux et j'avais l'air tellement sévère que les spectateurs terrorisés ne proféraient pas les cochonneries traditionnelles et applaudissaient à la fin. J'adorais. J'ai retrouvé la scène quelques années plus tard à Avignon quand j'ai lu pour la première fois et pendant toute la durée du festival 16 des journaux intimes de ma mère que j'ai découvert au fur et à mesure de ma lecture. Je frôlais le théâtre et j'aimais ça. Surtout que le premier jour, un déjeuner a été organisé en honneur de François Hollande. Le festival avait convié les principaux metteurs en scène du IN. Ils étaient tous là. Et même si je n'étais pas vraiment du métier, comme il n'y avait pas de fille, on m'a attribué ce rôle. J'étais assise à la droite du président. Il a fait un tour de table, commençant par sa gauche. Problème de gestion, de création, de budget, de troupe. Chacun a fait entendre sa voix. Moi aussi. Mon tour est venu. Je n'avais que mon expérience de stripteaseuse à offrir, avec des problèmes de température, de sous-vêtements, de pourboire. Ils ont compris que je n'étais pas une rivale. Mais disons qu'aujourd'hui, je mets une nouvelle fois le pied dans la porte.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.